Oui, avec Bertrand Zeniguido, donc, qui est venu nous parler de l'opération Andy Chien, organisée donc, entre autres, hein, par la section basket du Rambouillet. Alors Bertrand, il y aura des parrains prestigieux quand même pour cette opération. Je me suis laissé entendre dire qu'il y avait peut-être Richard Dacoury.
Il a été sollicité, oui, mais oui, oui. Ce sont des gens qui sont quand même très, oui, très sollicités, donc bon, on est pas certain qu'il sera là. Mm-hmm. Par contre, bon, nous on a décidé d'organiser notre tombola autour, ah ouais, du sport. Donc
ça, faut le dire, parce que là, ça fait rêver. Là.
Voilà, on a quand même sollicité le milieu sportif de haut niveau. Et l'idée, c'est de réunir des maillots de sportifs prestigieux comme l'eau pour notre tombola. Mm-hmm. Donc à l'heure actuelle, on a quand même eu le maillot de Boris Diaw, de Lilian Thuram, de Thierry Henry, de Feindouno, Diakaté pour le foot. On devrait avoir le maillot, pardon, de Mathieu Blain du Stade Français pour le rugby. On a Dominique Daquin pour le volleyball. Donc ça commence à prendre forme.
Comment vous avez vu ces maillots? Il faut aller voir intéressés, vous avez des réseaux, des filières.
Il y a de tout.
Ça prend du temps quand même.
Oui, il y a de tout. On a eu Jackson Richardson, ah ouais, en écrivant sur son site. D'accord. Et il nous a répondu très gentiment deux jours après. Après, il faut connaître la sœur du cousin, du grand-père. ça marche un peu comme ça.
Mais donc, pour Thierry Henry, vous êtes passé par Henri-Émile, non, non.
Pas Monsieur Émile, mais ça aurait pu être ça. Oui, on avait sollicité Aimé Jacquet qui nous a gentiment répondu. Mais là, en l'occurrence, c'est Monsieur François Blacard qui est un membre éminent de la Fédération Française de Football. On a la chance de l'avoir à Rambouillet. Donc pour tout ce qui est foot, on est très gâtés. Il nous a réuni un véritable trésor.
Ouais.
Déjà, je le remercie pour ça. Et je pense qu'au niveau foot, on a à peu près ce qu'il faut.
Donc ces maillots vont être mis aux enchères en quelque sorte, hein, à la tombola.
Mi-temps,
c'est ça.
C'est-à-dire, au départ, on avait envisagé on fera le tirage au sort à la mi-temps.
Ça va prendre du temps, hein. Il y en a qui vont se battre.
Ouais, bon, je pense que ça va aller vite, tirer les billets. Après, ils vont essayer peut-être de faire des trocs entre les sections pour avoir les bons maillots. Bon, j'espère que ça motivera les plus jeunes sportifs de Rambouillet, quoi.
Très bien. Bertrand, donc on va rappeler l'heure et le programme de la journée, hein. C'est le samedi 2 février.
Voilà, 17h45 au gymnase du Racinet. Voilà, j'espère qu'il y aura vraiment beaucoup de
monde. Donc on va rappeler le programme.
Le programme, ça s'articule essentiellement donc autour d'un match exhibition de handi basket, c'est-à-dire de personnes en fauteuil. On fera donc une démonstration du travail des chaînes d'assistance à la mi-temps.
Donc ils rentreront bien sur le parquet.
Là, ils rentreront sur le parquet,
match, hein,
mais pas en même temps que les joueurs.
Comme je le disais, comme ça, c'est clair pour eux. Hein.
Et ensuite, donc pour les gens qui auront le courage de rester, il y aura le match de la première de l'équipe de basket de Rambouillet qui reçoit Marly ce jour-là.
On l'a dit, donc on va rappeler les tarifs, les prix.
Donc on a fixé une entrée donc à 5 euros pour les adultes, à 3 euros pour les moins de 18 ans. Nos billets de tombola, c'est à 2 euros.
Les points de vente un peu partout,
notamment
à l'Office du Tourisme.
Office de Tourisme, on est en train de voir ça avec eux, les cliniques vétérinaires de Rambouillet, certains commerçants et auprès de toutes les sections sportives de Rambouillet Sport, que ce soit le volley, le hand, le basket, le rugby, taekwondo, judo, en fait tout le monde, tous les gens que nous avons sollicités qui ont répondu.
Et il y a des entreprises aussi que vous avez contactées qui, elles, sont parties prenantes. Alors, elles ont dit non, nous, on a beaucoup donné, notamment pour le Téléthon. Alors non,
pas encore, mais bon, on va charger quand même les étudiants de l'IUT d'essayer de contacter quelques entreprises pour, pourquoi pas, obtenir quelques dons, sachant qu'ils bénéficient quand même d'une fiscalité particulière. On espère qu'il y aura quand même quelques dons.
D'accord. C'est passionnant, ce genre
Moi, je me suis régalé à mettre ce projet en place avec Christian Ollier, qui est l'ancien trésorier du basket, qui me donne un énorme coup de main là-dessus. C'est excitant, oui. Puis bon, c'est un challenge.
Et puis comme ça, à travers vous, on mène deux passions, celle du sport et celle des animaux.
Et celle des animaux, voilà. Moi, c'est deux domaines qui me touchent, donc c'est pas vraiment une contrainte d'organiser ce genre de choses.
C'est Noël en plus bientôt, donc ça peut
Noël,
inviter certains à avoir.
Ça peut être un beau cadeau, offrir un billet de tombola. Et puis nous, si on peut faire un beau cadeau à une personne en fauteuil, on sera content aussi.
Très bien, merci Christian. Vous restez avec nous.
Il n'y a pas de souci.
Parce que Bertrand, vous restez avec nous parce que je sais que vous êtes un féru de sport en général. Donc pour rien au monde, vous ratez chaque dimanche Tribune Sport. Qu'est-ce que je veux dire, il y a le rugby aujourd'hui, Rambouillet-Versailles, ça vous inspire un commentaire? C'est le derby quand même.
Ah, ça.
Vous y serez, non?
Je, je vais essayer d'aller faire un saut voir les copains. Ouais. Je les ai pas vus beaucoup jouer cette année, les seniors. Maintenant, nous, on est passé en vétéran, donc on est meilleur à la troisième mi-temps que sur le terrain. Mais je vais quand même essayer d'aller les voir parce qu'il y a une belle équipe avec un rugby qui a bien évolué.
Vous jouez quel poste chez les vétérans? 3 carrés, 3 quarts centre.
Vu mon gabarit, c'est plutôt derrière, en général au centre ou à l'arrière. Voilà.
Ouais. Ça m'étonne pas. Ouais. Et un petit mot quand même sur le mondial. Il y a quand même encore un effet dans les clubs de rugby.
Ah, il y a eu un énorme engouement, notamment au niveau de l'école de rugby. Ouais, ils ont été obligés d'accueillir beaucoup de gamins supplémentaires. Ils ont quelques petits problèmes de structure. Ils ont été un peu surpris par l'ampleur de l'événement. Mais c'est bien pour ce sport et ça va se mettre en place aussi à ce niveau-là, je pense.
Très bien, merci donc Bertrand, vous restez avec nous, on va parler maintenant d'une autre épreuve dans un but caritatif, hein. C'est donc le 4L Trophy, on est content alors de recevoir Thomas Mouriou, non pas Mathieu, non pas Fabrice, non pas Mathieu comme sur le site internet ou Fabrice comme on a pu le dire, mais Thomas bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous étiez venu pour Tribune Foot il y a quelques mois.
C'est ça.
Ça s'était bien passé à l'époque, non? Finalement votre projet.
Oui, on avait pu partir en Allemagne et amener tous ces jeunes participer au tournoi de foot près de Munich. Donc c'était une belle expérience pour eux et pour nous aussi.
Oui, la radio mène à tout. Alors là, vous vous relancez dans une deuxième, j'allais dire, expédition à but humanitaire. On le connaît, on en a déjà parlé sur l'antenne. On a déjà eu des jeunes qui, eux aussi, se sont lancés dans ce type d'expédition. C'est donc le 4L Trophy.
Ouais, alors justement, on voulait participer au 4L Trophy parce que c'était à la fois un raid humanitaire et sportif qui nous tenait à cœur. Et puis c'est toujours sympa de partir dans le désert en 4L, quoi. C'est toujours marrant. Et surtout que nous, on avait une petite particularité. Enfin, justement, en plus du côté humanitaire, c'était le côté écologique. Mm-hmm. Puisqu'on veut compenser notre émission de CO2 par des plantations d'arbres dans les écoles marocaines. Mmh. Donc c'est lié l'humanitaire à l'écologie.
On fait dans le caritatif ce matin, mais c'est très bien. Le sport, c'est ça aussi. Puis
oui,
on est proche de Noël. Hein, c'est... Alors comment ça se prépare? Parce que d'abord, il faut trouver une 4L.
Oui, c'est ça le plus dur en fait. Parce que donc tout d'abord, il faut monter une association.
Oui.
Enfin, c'est pas une obligation, mais c'est vivement conseillé pour encadrer tous les fonds qu'on reçoit des différents sponsors.
Des subventions, ouais,
voilà,
ouais.
C'est ça. Il faut également créer un compte bancaire. Ça, c'est forcément nous.
Prend du temps tout ça.
Ouais, c'est beaucoup de démarches administratives qui sont assez contraignantes, et surtout qu'on avait qu'à peine 3 mois pour mettre tout ce projet sur pied. Mmh. Donc c'est vrai que le temps de tout monter, faire un dossier de sponsoring également. Ça prend du temps et ça prend du temps sur notre recherche de sponsors. C'est ça le principal défaut. Mais bon, il faut passer par là également. Quoi, donc, ouais.
Ça s'est décidé quand cette affaire là de venir participer à la 4L Trophy? Qui a eu l'idée?
Alors
vous comme ça d'un coup c'est... en matin, disons,
je connaissais déjà cette épreuve et puis ça c'est vrai que je me suis enfin sans jamais trop y penser je me disais tiens ça pourrait être sympa de le faire et puis l'année dernière au mois de mai juin j'en ai parlé à mes profs et à Étienne qui est là pour voir si ça pouvait se faire et puis également je leur ai demandé enfin à la rentrée des cours au mois de septembre je leur ai reposé la question voir si ça pouvait être validé auprès de l'IUT de Mantes et puis ça a été validé donc le projet a été lancé dès la rentrée quoi le 4 septembre.
D'accord, donc alors après création de l'association, création du compte bancaire,
ouais.
Ça c'est une chose.
C'est une chose.
Une fois que tout ça est fait, on cherche la voiture.
Disons que les frais d'inscription pour le 4L Trophy sont quand même assez élevés, c'est 3100 euros.
Voilà. Donc il faut faire du porte-à-porte quoi.
Voilà, donc c'est ce qu'on a fait, on a monté un dossier de sponsoring, mais c'est vrai qu'avant d'acheter la 4L et de commencer à s'endetter un peu, il fallait être sûr de trouver les fonds pour s'inscrire déjà avant tout. Donc, ce qu'on a commencé à faire, et c'est vrai que là, la 4L, on est toujours en train de la rechercher pour.
Ah, d'accord, il n'y a pas de 4L. Donc, non. Ça veut dire que si vous la trouvez pas.
Si on la trouve pas, le projet tombe à l'eau, c'est sûr, mais c'est de plus en plus difficile de trouver une 4L de nos jours, qui soit en bon état déjà pour le 4L Trophy, et à un prix abordable, puisque c'est vrai.
Si vous trouvez une 4L qui n'est pas en très bon état, on peut vous mettre en rapport avec des gens qui pourront vous la faire sans aucun problème. Hein, vous la briquez, hein, des gens qui travaillent. Qui sont dans le sport automobile, donc il n'y a aucun problème. Par contre, il faut la trouver, effectivement.
Ah, c'est ça, c'est ça. C'est vrai qu'on a fait plusieurs recherches. Déjà, on a été en voir une, notamment la semaine dernière. Bon, ça ne s'est pas avéré concluant, puisqu'elle était quand même à un prix assez élevé. C'était 1800 euros, dans un état qui n'était pas forcément des plus requis pour le 4L-Trophy.
En fait, c'est au niveau du moteur. Il y avait un son assez étrange, particulier, et qui nous laissait croire que ça allait pas tenir pour le raid au Maroc.
D'accord.
Dans des conditions qu'on connaît dans le désert.
D'accord. Mais il y a des clubs de 4L, il y a des réseaux, parce que je sais que dans certains modèles de voitures, de véhicules, il y a des clubs particuliers où on peut aller chercher un véhicule. Il y a les clubs Volkswagen, il y a les clubs
de chevaux.
Ouais, puis il faut savoir aussi qu'il y a tous les participants des années précédentes qui revendent leur 4L. Donc également on peut en trouver comme ça, quoi. Puis même sur des sites internet.
Et à l'étranger, vous pouvez peut-être en trouver dans les pays proches, la Belgique, l'Espagne.
Ouais, mais après, il faut pouvoir y aller, il faut avoir le temps d'y aller, surtout que nous, si on fait ça en parallèle de nos cours.
Oui.
Donc, c'est vrai que c'est pas. Il faut trouver le temps, et même si après, ça fait des frais aussi, on n'a pas un budget illimité, malheureusement. Mmh. Et donc.
Ce rallye, il est prévu quand ? En février, c'est ça?
Ouais, c'est du 14 au 24 février 2008. Ouais, ce sera la 11e édition.
D'accord. Donc, d'ici le 14 février, il faut une 4L.
Il faut une 4L, ouais.
Donc, on peut lancer un appel, certains.
Un appel, ouais. Voilà.
Si vous avez une 4L quelque part.
Si vous avez une 4L à vendre dans un bon état.
Alors, ensuite, vous allez partir à combien? Si vous partez, vous allez partir à combien?
Alors,
on va partir à deux.
Uniquement deux, c'est des épreuves de deux.
Donc, d'accord. Moi et Thomas. Par contre, on est un groupe de quatre, en fait. On participe quatre personnes pour le projet. Mmh. Donc, les deux personnes vont faire la communication pendant qu'on sera parti.
Oh, ils vont être punis.
Malheureusement, ça nous embête un peu de les laisser à l'UT, mais bon, bah. Ouais.
C'est la règle, hein, c'est comme ça.
On peut pas partir à 4 dans une petite 4L, c'est impossible.
Surtout avec toutes les fournitures scolaires qu'il y a également amenées. Ouais. Il y a 50 kilos de fournitures scolaires, donc c'est vrai que ça prend de la place, plus tentes,
les arbres qu'on va ramener, puis tout ce qui est matériel de rechange.
Alors avant de reparler de cette expédition, vous avez de l'argent aussi, donc il y a des sponsors qui ont quand même donné le
fait. Ouais, on a quelques entreprises qui nous subventionnent, donc ça on les remercie encore une fois. Néanmoins, c'est vrai qu'on avait fait une demande qui avait été acceptée auprès du Conseil Général des Yvelines, qui nous avait accepté à hauteur de 2800 euros. Mm-hmm. Donc c'est vrai que ça nous faisait
surtout que c'était au début du projet. Donc,
mais malheureusement, ils sont revenus sur leur décision et ils nous ont descendu la somme à 500 euros. Ce qui nous fait un trou dans le budget de 2300 euros. Quoi. Et c'est pour une raison qui nous a pas paru des plus valables.
Il n'y a pas d'autres jeunes qui font comme vous parfois. C'est peut-être ça aussi la raison. Il n'y a pas d'autres qui se tentent.
Alors, ce qu'il y a, c'est qu'au début, on est passé par la voie normale pour contacter le Conseil Général des Yvelines. À chaque fois, ils refusent toutes les demandes. Donc, après, on a rencontré Monsieur Bédier, donc qui est le président du Conseil Général des Yvelines, et qui nous a aidé.
Ouais.
Et donc, c'est comme ça qu'on a pu avoir cette subvention de 2800 euros. Maintenant, on a reçu un mail comme quoi, tout d'un coup, ils subventionnaient tout le monde. Donc, ça nous a quand même paru assez.
C'est pour ça qu'ils ont peut-être fait des.
Mais alors, ça nous paraît bizarre que
le mail est arrivé un mois après. Le fait qu'il nous ait dit qu'on allait avoir 2800 euros. Donc ça a fait que nous, on a pris du retard sur le sponsoring, puisqu'on n'a pas vraiment fait du porte-à-porte pendant cette période, puisqu'on s'est dit on va avoir déjà la moitié du budget prévu. Et donc voilà, donc là on est en retard.
Et donc en plus de la 4L, mauvaise surprise. Il vous refaut un peu d'argent.
Ouais, ça fait un sacré trou, quoi. 2300 euros, on les trouve pas comme ça. Donc même en faisant du porte-à-porte, quoi, c'est assez long. Quoi. Surtout que, enfin, il faut pas une entreprise. Nous lâcher 2300 euros d'un coup, ce sera un peu...
Bertrand, il va organiser une tombola là, voilà. Sur sa journée en 10 chiens, et puis on sait jamais, ça peut s'arranger. Donc il y a ça. Alors après, vous allez partir, donc pour le 14 février, hein, si donc eh bien vous avez la somme et puis la 4L, vous partez pas quelques jours avant en reconnaissance, parce que après, faut connaître quand même, c'est dans le désert marocain, hein,
c'est ça.
Faut connaître quand même le désert marocain.
Non, on part pas en reconnaissance, on a juste une boussole et une carte.
Oh là, c'est vraiment l'aventure.
Mais il y a quand même encadré, il y a un roadbook, une assistance qui nous couvre le parcours, qui la ferme.
Faut savoir le lire aussi.
Oui, bien sûr. Puis c'est aussi le but d'un raid, il faut que ce soit un peu difficile, si tout était trop
mais
simple.
Bon, enfin, ouais, c'est l'aventure, on verra bien là-bas.
Parce que le but, on va le rappeler quand même, hein, c'est donc il y a combien d'étapes?
Non, c'est une bonne question. Combien d'étapes? Je crois que ça dure 10 jours entre le début et la fin. Mais dans le désert marocain, il doit y avoir 5-6 étapes.
Mm-hmm. Après, je pense qu'il y en a plus quand même. Plus que 6, mais bon, ouais. en tout cas, voilà, on traverse beaucoup de villages dans le sud du Maroc surtout. Mm-hmm. Parce que c'est là qu'ils ont besoin aussi de fournitures scolaires et d'aide un peu. Et donc, voilà, c'est par là qu'on va passer. On va faire une petite boucle dans le Maroc.
Mm-hmm. Alors, vous avez un temps imparti pour faire ça? C'est une compétition entre vous, il y a quand même une course dans la course, en plus, j'allais dire, du côté caritatif.
Ouais, enfin, je dirais qu'on a juste... c'est un peu le même principe que le Tour de France. Mmh. Il faut pas qu'on arrive.
Il y a des délais, quoi.
Voilà, il y a des délais.
Même si le 4L Trophy n'est pas basé sur comme le Paris-Dakar, sur un temps, aller le plus vite possible. C'est pas là-dessus qu'on se base pour classer les. Mais il y a quand même un temps imparti à ne pas dépasser, ce qui est normal, quoi.
Ouais. Alors, on se prépare comment? Parce que il y a tout le préparatif financier, donc, à avoir. Mais vous, sportivement, mentalement, faut aussi vous mettre dans les conditions, quoi.
Bah, c'est vrai que rien que le fait de pouvoir. Enfin, c'est vrai que c'est assez excitant et motivant de savoir qu'on va parler. Il y a environ 2000 participants, puisqu'il y a 1000 4L. Donc, rien que de savoir qu'on va être autant d'étudiants et jeunes, ça motive, quoi. Pour...
D'abord, qui va conduire la voiture? Qui va conduire la 4L? Vous allez alterner?
Nous deux.
Ouais.
Parce que je pense qu'en moyenne, on conduit 10 heures par jour, je crois.
Ouais, c'est ça.
Donc, on va alterner.
Alors, vous amenez les ravitaillements, les vivres, ça se passe comment? Vous allez manger comment?
Alors c'est le 4L Trophy qui se charge de toute l'organisation pour 3 100 € par équipage. Ils fournissent pour se laver. Non, tout ça.
Et vous allez dormir où?
Alors, dans des bivouacs, dans une tente. On va ramener une tente dans le désert.
Oui. Ouais. Une tente, couverture de survie, et puis voilà.
Et puis voilà.
Hein. C'est excitant, ça aussi.
Ou
ça fait peur quelque part, dormir en plein milieu du désert comme ça. Il n'y a pas une petite appréhension quand même?
Là maintenant, non, je pense pas. On n'a pas peur.
Non.
Mais j'imagine que quand on sera en plein milieu de la nuit dans le désert, je pense que là, on va peut-être avoir un peu les chocottes. Mais bon,
et comment on s'apprête aussi finalement à pas beaucoup dormir, parce que vous risquez d'avoir des nuits aussi très courtes en fonction de vos arrivées, en fonction des allées et de la course.
Bah, disons que le quotidien d'un jeune, de toute façon, c'est pas une nuit. Ouais. Enfin, on ne dort pas énormément. Donc, de ce côté-là, on est un peu rodé.
Mm-hmm.
Mais bon, là, ça sera les conditions différentes. Donc, ça sera un peu plus difficile. Mais bon, je pense que si on est motivé et que tout se passe à peu près bien, je pense qu'on devrait sans problème s'en sortir.
Et physiquement, vous avez le temps de vous préparer aussi? Parce que bon, c'est aussi quand même conduire 10 heures, vous l'avez dit, dans le désert. Bon, c'est pas rien non plus. Donc, physiquement, il faut aussi, en plus de vos démarches à effectuer, il faut aussi se préparer. Footing, vélo,
ouais, enfin moi je fais déjà partie d'un club de handball là Oudan, c'est vrai que là, enfin moi au niveau physique ça va, je sais pas, sans être un sportif de haut niveau ça va.
Moi personnellement le sport en ce moment je l'ai mis de côté en faveur des cours bien sûr.
Mm-hmm.
Non mais bon je pense que je vais peut-être faire un peu de jogging avant de partir. Mmh. Je pense que ça va aider quand même physiquement et mentalement. Je pense qu'un peu de sport avant,
pour se ressourcer un petit peu, quoi. Ouais. C'est vrai que là on est en pleine période de partiel, il y a tous les cours qui sont également à suivre en parallèle de notre projet, donc c'est vrai que ça nous fait quand même une grosse somme de travail. Et donc c'est important de partir dans des bonnes conditions à la fois physiques et mentales pour le rêve, quoi.
Donc le but, on va le rappeler Thomas, quel est le but de cette le fait que pour vous bon c'est un côté sportif,
voilà.
Alors
le but c'est d'amener 50 kilos de fourniture scolaire aux enfants marocains pour les aider à se scolariser dans leurs écoles.
Donc chaque équipe ramène 50 kilos de fournitures scolaires.
D'où l'intérêt de finir l'épreuve, quoi.
Voilà, c'est ça. Ouais.
Donc s'il y a abandon, automatiquement.
S'il y a abandon, après le 4L Trophy se charge de récupérer les fournitures scolaires. On va pas les ramener, ce serait dommage quand même.
D'accord, quand même. Ouais. Et vous avez dit des gens qui ont fait un appui, mais si par exemple il y a une casse au niveau du matériel de la voiture, comment ça se passe? Qui va réparer? C'est vous? C'est une assistance de l'organisation? C'est qui?
Disons que si le problème mécanique est très grave, il faut compter sur les ingénieurs qui nous encadrent.
Donc il y a des...
Il y a une grosse assistance technique.
Mais
nous aussi, on va également ramener des pièces de rechange, donc un radiateur...
En plus, dans la voiture?
Ouais. Ouais, parce qu'en fait, on va essayer d'en prendre une berline, une break, une
fourgonnette.
Voilà, enlever les sièges arrière, et puis bon, on peut ramener des pièces de rechange pour les petits bobos, quoi, les roues de secours, radiateurs. Mais après, c'est vrai que si on a un gros pépin, là, il y a une assistance technique quand même. Et puis bon, si la 4L est morte, on retourne.
Il y en a un des deux qui est plus féru de mécanique que l'autre, non? Ou aucun, ou tous les deux?
On est assez amateurs.
Ouais,
non, enfin. Oui, ben ça va.
Mais j'avoue que bon voilà, moi je connais un peu les petites astuces mécaniques, mais vraiment s'il y a un gros problème je saurais pas quoi dire, je saurais pas quoi faire. Mm-hmm. Mais bon voilà, en plus le moteur d'une 4L est assez simple.
Oui.
Donc voilà, s'il y a un problème mécanique on peut quand même le voir et le déterminer assez rapidement, et puis par la suite peut-être le réparer.
Étienne, Thomas, que disent vos entourages quand vous leur dites que vous allez vous lancer dans ce genre d'expédition? Est-ce qu'ils vous encouragent? Est-ce qu'ils vous dissuadent? Est-ce qu'il y a une petite peur, une petite appréhension?
Ah non, bien sûr, ils nous encouragent parce qu'ils savent que c'est quand même un projet qui nous tient à cœur et qu'on est là-dessus depuis un moment. Oui, ils nous encouragent fortement, même au niveau, enfin notre entourage proche, au niveau de la famille, mais même au niveau des profs. Mm-hmm. C'est pas un projet qui est banal au sein de l'UT, donc c'est vrai qu'ils nous encouragent et ils nous motivent. Et ils nous aident, pour certains, ils nous aident. Vous êtes quand même assez bien dans nos démarches administratives et au niveau des courriers qu'on peut faire. Mmh. Donc ils nous orientent. Donc c'est vrai qu'on a quelques soutiens, mais pas tout le temps.
Oui, bon, il y a les portables, ça fonctionne dans le désert en principe.
Hein, ouais,
on pourra vous joindre sans problème.
Oui, bien sûr.
Très bien, bah, écoutez, merci. Donc on va quand même rappeler que vous cherchez encore une 4L.
Ouais, oui, bien sûr. Hein, donc vous pouvez
donner un numéro de téléphone ou un site internet.
Voilà, donc vous pouvez nous contacter Thomas Mouriou au 06 89 18 47 05 ou sur notre adresse mail, donc c'est mante-4l@yahoo.fr.
Vous serez décidé quand? Enfin, vous aurez la réponse quand de votre participation? Parce que si vous n'avez pas de 4L une semaine avant...
Alors là, on a jusqu'à la fin de la semaine prochaine pour en trouver une et envoyer
C'est rapide, hein.
Ouais. Mais on est sur plusieurs, là, qu'on devrait aller voir la semaine qui arrive. Mm-hmm. On va encore essayer de négocier un peu de temps, parce qu'ils ont... L'organisation a des contraintes au niveau des douanes et au niveau des autorités marocaines pour fournir tous les numéros de passeport. Et toutes les...
Oui, parce que ça aussi, ça rentre aussi en ligne de compte.
Ouais, bien sûr.
Ça aussi, ça vient s'ajouter au.
En plus,
reste,
hein, il faut avoir un
accord donc avec les autorités. Hein,
surtout qu'il y a, il faut avoir un passeport valide jusqu'en septembre 2008. Donc, c'est vrai que là-dessus, j'ai eu un petit souci, mais bon, c'est réglé, tout est rentré dans l'ordre. Et puis, il faut qu'ils aient toutes les pièces administratives en main avant au moins fin décembre, quoi. Donc, c'est vrai que ça approche assez rapidement, quoi.
Et si vous partez pas, vous prendriez ça comme un échec personnel?
Oui.
On va pas se passer dans cette configuration-là, mais bon.
Non, mais ça peut. C'est sûr que ça peut.
Vraiment.
Demain, vous n'auriez pas suffisamment donc la 4L, vous n'auriez pas suffisamment d'argent.
Disons que les.
Changer de projet.
Non. Disons que de toute façon, nous, notre année se termine en avril, puisque après on part en stage. Pardon. Et donc de toute façon tous les fonds qu'on aurait pu trouver d'ici là, déjà on rembourserait nos sponsors et puis tout, si on avait des fonds autres, on les reverserait à une association
Ou alors par exemple on enverrait nos propres fournitures scolaires, on les enverrait au Maroc par nos moyens avec les fonds qu'on aurait récupérés Voilà, donc ça serait dommage.
Mais il y aurait pas l'aventure humaine au bout quand même.
C'est le principal attrait du 4L Trophy, quoi. C'est sûr que bon, ce sera
la rencontre avec les populations locales.
C'est ça. Voilà,
ça serait vraiment. Je peux même pas l'envisager pour l'instant, parce qu'on a investi tellement de temps dans ce projet que c'est impossible qu'on. Enfin, ça serait impossible qu'on échoue, quoi.
Ouais. C'est un rêve, hein. Le Maroc, vous le connaissez pas. C'est un rêve, hein.
Le Maroc avec les paysages. Qu'on voit, ça serait génial.
Vous allez avoir le temps de prendre des photos, si vous partez quand même, vous comptez bien.
Je pense.
Ouais, photos, et puis on va peut-être réaliser un petit film aussi pour notre soutenance, parce qu'il faut savoir que ça rentre dans le cadre de nos études.
Voilà.
C'est notre projet tutoré qu'on a à faire tout au long de l'année. Et donc si on peut faire un petit film et essayer de faire une soutenance assez originale, qui montre un peu tous nos exploits dans le désert marocain, ça peut être sympa, quoi.
Serait, ouais.
Et puis bon, même si c'est pas la même épreuve, le Paris-Dakar, ça peut vous inciter un jour après à aller plus loin, plus haut avec le Paris-Dakar, même si là c'est pas dans un but humanitaire, mais bon.
Ouais, ouais, bah c'est sûr que là il faut c'est encore un projet à une autre dimension, là c'est tout autre chose, hein, mais c'est sûr que c'est rien que l'attrait du 4L Trophy, ça donne envie de participer au Paris-Dakar.
Il y aura combien de voitures, combien de partants, vous le savez à peu près au départ de la 4L Trophy, à peu près?
Il y en aura
1000 4L environ.
1000 4L,
ouais. Donc
2000 étudiants. Un équipage équivaut à deux étudiants. Donc,
vous avez d'autres copains étudiants qui font le même genre de...
Bah, disons que.
Vous en connaissez?
Moi, j'en connais pas personnellement. Disons que.
On en a eu sur Rambouillet il y a quelques années. Hein.
Ouais. Bah c'est vrai que c'est assez attirant, donc il y a pas mal d'étudiants qui essaient de le faire. Bon, après tout le monde ne réussit pas forcément comme on peut le voir, mais là au sein de notre IUT, non, on est que tous les deux. Ça nous ferait un peu de concurrence de toute façon, donc on n'a pas besoin de ça.
Okay. Très bien, bah écoutez, on va être de tout cœur derrière vous. Tenez-nous au courant. Hein,
bien sûr.
Ça avait bien marché pour le foot, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas donc, pour le 4L Trophy. Hein, et puis donc, entre le 14 février et le 20.
Du 14 au 24 février.
D'accord, donc le 24, hein, vous nous appelez et voilà, vous
puis on peut aussi,
on a gagné le pari. Voilà.
On peut aussi inviter les gens à venir du 7 au. Non.
C'est du 7 au 12 février 2007. 2008,
Mente en Yvelines, parce que justement il y aura une semaine pour le développement durable à notre IUT, et ça sera aussi pour eux l'occasion de parler de notre projet, donc une journée sur le 4L Trophy aussi, voilà.
Très bien, le rendez-vous est pris, merci Étienne, merci Thomas, et tenez-nous donc au courant, je suis sûr que vous allez gagner votre défi. Allez, la pause musicale et ensuite on va, une petite demi-heure consacrée au foot, on y va. Allez, comme donc on a un petit créneau ce matin et que habituellement on est dans le créneau de Tribune Foot, eh bien on va naturellement parler de ballon rond et de la journée de championnat d'hier soir. Je vais d'abord donner les résultats de la 18e journée, hein, parce que ça intéresse beaucoup de nos auditeurs. Victoire donc de Toulouse, on va y revenir au Parc des Princes devant le Paris Saint-Germain de Buzyn. Match nul entre Lyon et Nice 0-0. Hein, les Lyonnais étaient peut-être pas complètement remis de leur belle victoire de mercredi face à Glasgow. Victoire aussi assez nette de Valenciennes contre Serres, 3-0. Le Mans et Lorient 0-0. Victoire de Sochaux dans un match de mal classé. Donc victoire de Sochaux à Metz 2-1. Caen est allé gagner à Rennes 2-1. Je crois que c'est la 6e défaite consécutive d'Irénée. Ça sent aussi un peu la crise et je crois que les jours de Pierre Drey aussi sont comptés à la tête donc de l'équipe rennaise comme entraîneur. Nette victoire de Lille sur Saint-Etienne 3-0. C'est la bête noire de Saint-Etienne, Lille, chaque année. Victoire de Monaco aussi devant Lens 2-1-0, ça ne va pas arranger les affaires du club de Lens, donc entraîné par Jean-Pierre Papin. Cet après-midi à 18h, il y a Strasbourg-Nancy, et puis le beau choc de cette 18e journée, Bordeaux-Marseille, à partir donc de 20h55. Pour l'instant, avant les matchs de ce soir, c'est Lyon qui mène avec 38 points devant Nancy, 33 points, 3e Le Mans, 30 points, 4e Valenciennes et Bordeaux, 29 points, et 6e Caen avec 28 points, et 7e Nice, 26 points. Ce sont vraiment des équipes qu'on attend pas pour la plupart en début de saison. C'est le Paris Saint-Germain qui est 18e avec 19 points, 19e Sochaux 16 points et 20e Metz 7 points. Ce sont ces trois équipes-là qui, en principe, donc pour l'instant, eh bien, descendraient en Ligue 2. Alors, on a naturellement la populaire Juliette Rouvel au téléphone. Juliette, bonjour.
Oui, bonjour.
Membre des amis, du Paris Saint-Germain. Ouais, Saint-Germain. Juliette, on arrive à la fin des matchs aller. Pas une seule victoire pour le PSG au Parc des Princes. On n'a jamais vu ça.
Oui, pas une seule victoire, 4 matchs nuls et 6 matchs perdus. Mais bon, écoutez, quand la malchance vous poursuit, il n'y a rien à faire. Hein.
C'est que la malchance, Juliette.
En plus de la malchance, c'est une malchance, parce que pas possible que tous les tirs que Paoletta a fait un tir, Lundella a fait un tir sur le gardien, enfin, il y a eu du jeu, il y a eu des choses de fait. Hein. Mais bon, je dis que c'est une malchance, il n'y a rien à faire, ça ne rentre pas, il y a quelque chose, mais quoi, je ne sais pas. Mais je vais essayer cette semaine d'essayer de travailler là-dessus pour voir ce que c'est.
Mais Juliette, il y a quand même des buts encaissés par le Paris Saint-Germain. On a vu hier le premier but.
Oui, mais le premier but, c'est une grosse erreur. Oui, mais... C'est vrai. Même le deuxième, je dirais, parce que quand Elmander avait le ballon, il y avait deux Parisiens sur lui. Yepes, il suffirait qu'il aille au poteau. Mais moi, je ne comprends pas. Quelquefois, il n'est pas l'idée d'aller au poteau pour aider le gardien, pour pouvoir. Yepes aurait avancé vers le poteau. Il aurait dégagé. Il aurait dégagé du pied.
Oui, mais ça relève quand même d'un certain état de fébrilité. Le but encaissé contre Caen, ou même le premier but hier, ça prouve quand même que les joueurs jouent peut-être pas comme ils devraient jouer, mentalement.
Écoutez, je vous dirais que moi, j'ai honte pour les arbitres qui viennent jouer à Paris. Du reste, Monsieur Bernard Lacombe l'a bien dit, dans une interview cette fois, que Paris était le club le plus sévèrement traité par les arbitres sur les fautes et sur les cartons. Vous ne pouvez pas me dire que M. Bray, qui était à 2 mètres d'une action où Yepes était à côté de Dieuz, Dieuz a mis la main dans la surface, ne me dites pas que M. Bray ne l'a pas vu. Tout le monde l'a vu, même ma petite fille de 8 ans a vu l'erreur. Hein? Alors, M. Bray était fixé sur Yepes, je suis persuadée. Parce que Yepes et Paoletta, ce sont les deux joueurs qui sont classés sur la liste noire des arbitres. Je crois quelque part, M. Bray, s'il avait sifflé cette faute, Dieu aurait eu un deuxième carton jaune qui amènerait un carton rouge et ensuite un pénalty. Et je vous assure, ça aurait changé le cours du jeu. Peut-être que aussi Toulouse allait gagner, on ne sait pas. Mais là, cette faute que l'arbitre n'a pas sifflée, après ça a été sur Paoletta. Une faute dans la surface sur Paoletta. Alors à la fin... Il y a eu une troisième faute de fait. Il a dit cette fois, pour ne pas me faire incendier, je vais donner un pénalty. Mais on ne lui demande pas de nous donner des pénaltys. Regardez Armand. Armand aussi a fait une faute. Il lui a donné un carton jaune. On ne lui demande pas des faveurs. Et s'il méritait un carton rouge, il fallait lui donner un carton rouge. Paris s'est joué à 10. Peut-être que là, ça allait aussi changer le cours du match. Alors, moi, je commence par en avoir assez de ces arbitres qui font ce qu'ils veulent de Paris. Ils ne font... que maltraiter Paris. Ils ont une haine sur Paris, ils sont anti-parisiens, et tout ça à cause de quelques moutons qui sont derrière les Gaules, qui traitent les joueurs de chèvres, mais ils savent pas qu'eux-mêmes ils sont des microbes et des moutons de Panurge, et qu'il ferait mieux de rester chez eux, c'est ces supporters. On leur demande de rester chez eux. On aura d'autres personnes pour venir supporter le club. On en a assez de ces supporters.
C'est le cri du cœur de Juliette Rouvel.
C'est vrai qu'on en a marre d'eux. Hein. On en a très très marre. Parce qu'au lieu d'avoir 2000 policiers dans les rues là qui tournent en rond et qui empêchent de circuler, ces supporters-là resteraient chez eux. Je suis persuadée que Paris se porterait mieux. L'année se termine. On pense que là maintenant, les choses vont reprendre l'année prochaine avec d'autres situations. Cette semaine, il y a un conseil d'administration. On va voir un petit peu comment les choses vont se mettre en place. Et puis à ce moment-là, pour l'année prochaine, je vous garantis, les arbitres ne feront pas de Paris ce qu'ils veulent. Déjà l'année dernière, il y a 3 clubs qu'ils voulaient faire descendre à cause des supporters en deuxième division. Nice, Marseille, Paris. Quand ils ne sont pas arrivés, hein, à la fin, Paris, ils ont essayé de maintenir pas Paris, le seul club qui ne soit pas encore descendu en deuxième division. Quand j'entends des supporters dire oui, il est préférable que Paris descende pour remonter, je dis non, Paris ne descendra pas en deuxième division et Paris restera le seul club qui ne soit jamais descendu en deuxième division. Maintenant, tout le monde parle de Lyon, c'est vrai, Lyon joue très bien. Mais à quel prix? Combien de fois ils ont eu l'avantage avec les arbitres? 3 fois on les a rencontrés, hein, en coupe des coupes des champions. L'arbitre leur a donné un avantage avec un pénalty. En coupe de la Ligue, l'arbitre leur a donné encore un avantage avec Wiltor qui était hors jeu. En match retour, l'arbitre les a facilités avec un coup franc. De Claire qui soi-disant Armand avait fait une faute, Armand était à 3 km de lui, alors comment pouvait-il faire une faute sur lui, et le juge de touche était juste à côté. Alors, on en a assez de des clubs dont les arbitres favorisent et des clubs dont ils veulent les faire descendre parce que les supporters sont des moutons et des microbes qui nous agacent et qui nous gênent dans ce club. Il faut les éliminer.
Alors justement, Juliette, on a eu une semaine un peu difficile au camp des loges, hein, puisque on sait que Rotten a été pris à partie par certains supporters.
Oui, qu'est-ce que ça veut dire? Depuis quand ce sont les supporters qui mènent le jeu du club? On leur donne un peu de doigt, on leur donne la main, ils veulent prendre le bras. Ils n'ont pas à voir après Rotten. Au contraire, Rotten, c'est le joueur qui fait tout le travail sur le terrain. C'est le joueur qui fait pourquoi? Parce que Rotten ne leur a pas donné un maillot? Alors je dirais aussi aux joueurs, arrêtez maintenant de donner vos maillots aux supporters derrière les tribunes, vous avez, derrière les goals. Vous avez sur les côtés en A, en B, en C, en D, en F, en J, en H, et vous avez aussi des jeunes à mobilité réduite qui sont là aussi, des handicapés, qui viennent pour supporter le club. Donnez vos maillots pendant tous les 6 mois qui restent de jeu, donnez vos maillots de ce côté, sur les côtés des latérales de la tribune. Arrêtez de leur donner des maillots. Ça, c'est les favoriser. Ils ne sont pas indispensables. On n'a pas besoin d'eux. Et qu'ils chantent ou qu'ils chantent pas, c'est la même chose. La dernière fois, ils étaient tous derrière la grille. Ils ont soi-disant fait grève. Ils étaient tous comme des singes derrière la grille, attendant un quart d'heure pour entrer. Hein? Écoutez, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, ben c'est ridicule. C'est ridicule. On soutient un club qui va bien, qui aille mal. On cherche à savoir le pourquoi et on les soutient dans les meilleures conditions. Moi, je suis furax de cette façon qu'ils ont eu de traiter Rotten.
Oui, tout le monde mouille le maillot quand même au PSG, Juliette. Vous avez le sentiment que les joueurs donnent l'essentiel de leur...
Non, mais c'est vrai. Il y a quelques-uns, je pense, qui n'ont rien à faire au Paris Saint-Germain. Mais ils sont là, il faut attendre le mercato ou attendre la fin de la saison. Alors, on ne peut pas les mettre à la porte comme ça.
Non, bien sûr. Alors, on a dit effectivement conseil d'administration cette semaine. Donc, Alain Cazac a dit que tout était envisagé hier soir, y compris son départ ou celui de Paul Le Guen.
Non. Il n'y aura ni de départ de M. Cazac, ni le départ de Le Guen. Je pense que simplement, les choses vont se relancer chez les joueurs. C'est surtout ça dont on a besoin. On a besoin d'un bon attaquant, d'un bon milieu de terrain, et puis renforcer un petit peu la défense. Parce que quand Le Guen a voulu faire jouer les jeunes, il ne l'a pas fait pour punir les anciens, comme on l'a laissé entendre. Il a voulu un petit peu essayer de trouver un groupe qui pourrait jouer quand les anciens vont partir. Parce que l'année prochaine, nous n'aurons pas tous ces anciens. Paoletta, c'est sa dernière année. Yepes va partir. Armand va certainement partir. Rotten, bon, s'il est encore maltraité comme ça, moi, je suis d'accord avec lui. Autant partir, hein, parce que bon, on ne peut pas rester dans un club où les gens viennent taguer votre maison. Ou viennent vous crever les pneus de votre voiture. En plus, ces gens-là, ce sont des gens qui travaillent pas, qui doivent être au SMIC. Ils sont là que pour toucher de l'argent. Et au lieu d'aller travailler, il ferait mieux emmerder les gens au camp des loges. Il ferait mieux d'aller travailler, hein, parce que ces gens-là, ce sont des gens qui travaillent. Et c'est avec l'argent de ces gens-là qui payent la sécu, qui payent bien. Il y a des choses qui leur permettent à eux d'avoir du RMI et d'avoir autre chose. Alors, il faut que ces supporters arrêtent de nous casser les pieds. Hein.
D'accord, donc on peut prévoir davantage de fonds débloqués par les actionnaires pour...
Voilà, moi je pense que c'est ce qu'il faudrait faire. Débloquer un peu de fonds, acheter au moins 3 bons joueurs, et puis, je pense que les choses, l'année de la douleur, de la souffrance est terminée. 2007, ça va se terminer. Alors, je suis désolée pour Bibi, hein. On va se rencontrer au prochain match.
Mais c'est ça le foot, c'est bien.
Et bon, je pense que ça va être le meilleur qui va gagner. Et puis c'est tout. Parce que bon, c'est vrai que Saint-Etienne, c'est un club que j'aime bien, que j'ai soutenu dans le temps et que je soutiens encore. Mais bon, je suis parisienne. Mais là, je pense que le prochain match, bon, c'est à Saint-Etienne. Et ben bon, Paris gagne à l'extérieur. Bon, et ben on verra bien.
Oui, et Saint-Etienne est souvent invaincu à domicile, donc ça va donner un bon match.
Ça va donner un sacré match. Enfin, bon, je pense que les joueurs ont l'habitude d'aller à Saint-Etienne et de se bien comporter et de jouer franc jeu, quoi.
Oui, en général, ça donne souvent des beaux matchs en plus, les matchs au Saint-Etienne, Paris Saint-Germain.
Tout à fait. Et puis qu'on arrête de nous casser les pieds avec Lyon, hein. Parce que bon, écoutez, ils sont en 8e de finale, mais ils n'iront pas plus loin, ne vous en faites pas.
Eh oui, ça c'est l'éternel problème. Alors, Juliette, vous restez bien avec nous parce qu'on a dans nos studios des gens qui sont aussi des amoureux du foot et deux d'entre eux, deux jeunes qui sont aussi donc des supporters du Paris Saint-Germain. Donc je vais leur demander leur opinion. On a Thomas Mouriou, hein. Thomas, donc bah oui, vous êtes aussi donc un fan de foot. Ouais. Supporter du PSG, vous allez souvent au parc, non?
Ah, j'y allais souvent. J'étais abonné deux saisons justement au Parc des Princes.
Ouais.
Là ça fait deux ans je n'y vais plus parce que déjà ça coûte assez cher.
Ouais.
Et puis j'ai plus forcément le temps.
D'accord. Mais vous restez un
ah, je reste un fidèle du Paris Saint-Germain, je rate aucun match dès qu'il passe à la télé.
Alors, comment vous analysez, je dirais, cette première moitié de saison pour le PSG? Vous aussi, vous êtes comme Juliette, vous n'imaginez pas le PSG en Ligue 2?
Oh bah pas du tout, c'est inconcevable. Maintenant, c'est vrai que quand on voit l'erreur de Camara hier et l'erreur de Tchiara la semaine dernière, on peut se poser des questions sur la qualité de la défense, même si c'est vrai que Camara, lorsqu'il était à Saint-Etienne, était quand même un très bon joueur. Donc c'est vrai que c'est assez surprenant. Puis même sur le papier, quand on voit les joueurs du Paris Saint-Germain, c'est assez surprenant de les voir en 18e position maintenant, quoi.
Ça provient de quoi, d'après vous, comme ça, au premier abord
C'est vrai que ça.
Parce que très longtemps, Paris était intouchable à domicile, quoi. Hein.
Bah ouais, c'est ça que. Alors, le syndrome Parc des Princes, moi, j'y crois pas vraiment. Disons que un match de foot, ça reste un match de foot, que ce soit sur un terrain ou sur un autre. Après, une équipe, du moment qu'elle a sa cohésion, bon voilà, maintenant, c'est vrai que analyser quand on n'est pas directement impliqué dans le club, enfin, en tant que supporter, c'est peut-être un manque de cohésion entre les joueurs ou un manque d'envie, je sais pas.
Il y a un véritable patron dans le club. Est-ce que le président Kezak est quand même quelqu'un qui est à poigne?
Oh bah, je pense, oui. De toute façon, ça fait déjà un moment qu'il était dans le club avant d'être président. Donc, c'est sûr qu'il connaît bien le club. Maintenant, s'il a un président à poigne, je le connais pas. Enfin, d'un point de vue extérieur, je pense quand même. Mais qu'il doit. Mm-hmm. De toute façon, il a quand même des obligations vis-à-vis des actionnaires. Donc,
mm-hmm. Juliette?
Oui.
Ouais, ce que vient de dire Thomas?
Mais je suis d'accord avec lui, sauf que c'est pas Camara qui a fait la faute, c'est Landreau.
Oui.
Parce que Landreau, où il était placé, il a cette mauvaise habitude de quitter sa ligne, de quitter son terrain. Alors, peut-être a-t-il vu arriver le ballon, il a voulu sortir pour faire une tête ou faire un je sais pas quoi, parce qu'il n'a pas le droit de toucher le ballon en dehors de sa ligne. Mais l'erreur vient de Landreau. Et ça, il faut qu'il apprenne à rester dans son but.
Oui, c'est vrai, Juliette, il a fait quelques-unes qu'il en fait quand même, Landreau, des erreurs. Que ce soit avec le PSG ou bien l'équipe de France, il commence à faire quelques belles boulettes.
Oui, mais oui, et je sais que, bon, quelque part, il y a certains commentateurs qui l'attendent au tournant pour le faire virer de l'équipe de France. Mais bon, ça, il faut qu'il apprenne à rester dans son camp et puis à jouer son match comme il faut. Parce que, et même quand le ballon est passé devant lui, il aurait essayé de faire une pointe. Je pense qu'avec un croisé avec Yepes, il aurait pu, enfin bon, je dis, hein, qu'il aurait pu sortir le ballon. Mais il est resté debout en engueulant Camara, comme si c'était Camara qui avait fait la faute, alors que c'est lui qui n'est pas à sa place. Enfin, il ne faut pas exagérer non plus. Hein.
Vas-y, Thomas.
Peut-être aussi pu voir que Landreau, enfin, je suppose qu'en tant que défenseur, il doit quand même voir où est son gardien et pouvoir juger efficacement de son positionnement.
Oui, mais quand il a vu le ballon arriver, je pense qu'il était sur les côtés, parce que la tête qu'il fait, il le fait sur les côtés. Il aurait fait un peu plus sur les côtés que ça arriverait sur Landreau. Mais je pense qu'il n'a pas vu Landreau avancer aussi près de lui. Je crois que c'est ça.
Alors, on a aussi maintenant l'opinion du copain donc de Thomas, hein, Étienne, qui va partir avec lui sur la 4L Trophy. Étienne, aussi grand amoureux du foot et grand amoureux du PSG.
J'avoue que non, pas vraiment PSG.
Ah bon, je vous pensais amoureux
Non,
du PSG.
Mais j'aime le foot. Je suis pas vraiment un amoureux.
Aucun club.
Lyon, ah bon, mais
bon. Alors vous, comment vous expliquez les déboires de...
Je pense que c'est un manque de cohésion et d'entente dans l'équipe. L'équipe est en crise en ce moment, ça fait un certain temps maintenant.
Ouais.
Et je pense qu'il faut faire des efforts de toutes parts au niveau du public, au niveau de l'équipe.
Ouais. Vous allez au Parc des Princes souvent, non?
Non,
jamais.
J'avoue que non.
Ça vous manque pas?
Non. Non, j'y suis allé qu'une seule fois, mais voilà, sinon...
Ah d'accord, donc quand vous voyez Thomas, vous suivez les matchs en chambre, mais vous emmène pas au Parc des Princes.
Oui, et puis, oui.
D'accord.
Puis je l'embête un peu sur les résultats du PSG. régulièrement.
Non, mais pour le foot, ouais, pour le foot français, vous imaginez donc PSG en Ligue 2, c'est quand même inconcevable.
Non, c'est vrai que bon, le PSG a une grande notoriété et de savoir que ça va passer, que peut-être ça passera en Ligue 2, c'est quand même assez particulier.
Bon, Juliette, on va voir un troisième intervenant dans nos studios,
hein, oui, qui était aussi
ce matin, qui est un amoureux aussi du sport. Donc,
Je dirais à ce jeune supporter, si un jour il veut venir au Paris Saint-Germain, il peut m'appeler, je peux lui faire avoir un billet, il sera bien placé, il verra un beau match.
Et c'est la meilleure façon, effectivement, d'apprécier le foot. Hein.
Voilà, merci. Tout à fait.
Voilà, alors on attend, donc Bertrand Zeneguido, vous, comment vous suivez donc enfin, ce qui se passe d'abord dans le championnat français et puis ce qui se passe au Paris Saint-Germain?
Oh ben moi je suis pas
l'homme du sud.
Moi, ouais, moi
vous êtes content d'habiter de Toulouse.
Ouais, de Toulouse, Bordeaux. Ouais. Bon, mon cœur va aussi plutôt à Saint-Etienne.
Ouais.
Donc je suis pas d'accord avec Juliette, je pense qu'ils gagneront pas à Saint-Etienne. Et moi je suis content de voir qu'il y a des passionnés à Paris. C'est vrai que moi je déplore comme elle que il y a une image d'un public qui colle à ce club qui le dessert complètement. Bon, d'autres grands clubs sont passés par la Ligue 2 avant eux, Saint-Etienne en particulier. Bon, ça serait dommageable pour le football français, mais ça, on peut l'envisager et ça peut-être aussi permettre de repartir sur d'autres bases.
Oh, vous voyez un PSG Guignon, un PSG Guingamp par des Princes quand même.
Bah, des fois, il faut en passer par là. Si sur le plan sportif, ils ne redressent pas la barre, il faudra qu'ils se résignent à ça. On ne leur souhaite pas, évidemment.
Mmh. Juliette ?
Oui, non, mais Paris descendra pas, hein. Ça n'en est pas question. On sera peut-être, on finira 15e, qui sait, bon, comme l'année dernière, mais bon, on descendra pas. Ça c'est inconcevable. Paris, c'est le seul club qui ne soit jamais descendu en deuxième division. Paris tiendra le cap et ne descendra pas en deuxième division.
Voilà, que ce soit clair.
Oui,
j'en prends acte.
Alors, il y a eu aussi, depuis quelques années, des changements de président, des changements d'entraîneur. Ça n'a pas joué pour Paris quand
ça
même.
Ça a été l'erreur, effectivement. Ça a été l'erreur. Bon, je crois quelque part. Là, maintenant, on parle d'Alain Roche qui ne fait pas non plus son travail sur les joueurs à prendre. Et j'ai même entendu annoncer Luis Fernandez. Alors, tout le monde veut que Luis Fernandez vienne à Paris. Bon, il est parti dans quelles conditions? On ne sait pas dans quelles conditions il est parti, Luis Fernandez. Il est parti, paraît-il, avec des sommes faramineuses. Alors, bon, écoutez, on ne peut pas avoir cassé Paris à la fin, bien qu'il a gagné une coupe quand même avec Paris.
Oui.
Mais on peut pas non plus faire partir comme ça et puis vouloir maintenant revenir en tant que management pour pouvoir faire la sélection des joueurs. Bon, ça c'est, j'ai entendu ça ce matin sur une chaîne. Bon, pourquoi pas lui, ça, Paris? Ça fait un moment que bon, ça se dit.
Mais on en parle toujours, hein. Quand ça va mal, on parle toujours de
mais
lui.
Oui, mais oui, mais bon, on parle des gens qui ont fait aussi des erreurs. Alors on peut pas revenir là-dessus. Je suis désolée. Bon, Monsieur Kézak va rester. Le Gouen doit rester. Il n'est pas question qu'il s'en aille, il doit rester. Bon, il va essayer par tous les moyens. Et puis l'année se termine en mal, et ben on reprendra l'année en beauté 2008.
Et les actionnaires, vous les voyez souvent dans les tribunes de Parc?
On les voit dans les tribunes, oui, que dans les tribunes qu'on peut les voir, du reste quand la caméra veuille bien nous les montrer. Alors moi je dirais aussi aux caméramans, au lieu de montrer les banderoles que font les tifosi ou les supras et tout ça, qu'il ferait mieux de montrer des gens qui soutiennent aussi Paris dans les tribunes latérales, hein. Parce que c'est ces banderoles qu'ils mettent là et qui insultent les joueurs, qui traitent de chèvres ou autres. Bon, ça, on en a assez vu, on sait ce qu'ils valent. Ce sont des gens, je pense, qui ont un quotient intellectuel en dessous de la moyenne. Et ce sont des gens qui n'ont aucun savoir-vivre, aucune personnalité, aucune fierté d'eux-mêmes, aucun respect d'eux-mêmes. Alors ces banderoles-là, ne nous les montrez pas surtout, parce qu'il y a des enfants qui regardent des matchs c'est à la maison aussi.
Mais il y a quand même une certaine sérénité qui est revenue quand même parmi les supporters du PSG avec ce qui s'est passé l'année dernière quand même.
Une certaine
sérénité, Juliette, quand même, ça va.
Une sérénité, mais il y a toujours un petit noyau. Il y a toujours un petit noyau. Si on peut détruire ce noyau, pourquoi pas? Mais moi, je dis qu'il faut fermer la tribune des supporters. Vous les fermez, remboursez-les et fermez la tribune et on repartira sur de nouvelles bases pour mettre des gens qui veulent voir des matchs du PSG.
Mmh. Et les jeunes qui ont joué en début de saison, qu'on ne voit plus, comme Sarko, qui était capitaine, comment on peut expliquer aussi ce choix de Paul Le Guen?
Ce choix de Paul Le Guen, je pense qu'il a fait ce choix par rapport... Il y avait 6 ou 7 joueurs jeunes qui jouaient ce jour-là. Alors, je pense qu'il a voulu mettre un jeune capitaine par rapport aux jeunes qui jouaient ce jour-là. C'était tout. Je pense qu'il, quand j'ai entendu, c'est un symbole, il a bafoué le symbole... Enfin, c'est complètement ridicule. Il y avait 7 joueurs jeunes qui jouaient. Ah ben, il a pensé que Sarko, qui était capitaine en CFA, c'était aussi bien de le mettre pour un petit peu les booster, leur donner un petit peu d'aide et tout ça. Mais bon, moi je ne vois pas le mal. Il faut toujours qu'on cherche à pianer, à trouver que bon, ouais, il aurait dû faire ci, il aurait dû faire ça. Et je pense que tous ceux-là qui veulent faire à la place de Le Guen, ils seraient à la place de Le Guen, ils seraient peut-être pire, on serait peut-être 20e ou même 22e. Parce qu'il n'y a pas 22 équipes, mais enfin bon,
c'est une façon de parler. Merci Juliette, en tout cas. Bonne fête de fin d'année.
Oui, merci beaucoup. Et puis à la prochaine.
Voilà, à très bientôt côté de Fort-de-France. Salut. Ouais,
oui, on se rappelle.
Voilà, merci.
Allez,
Juliette.
Au revoir.
Allez, voilà donc pour Juliette Rouvel, les amis du Paris Saint-Germain. Vous avez vu, c'est quelqu'un qui croit en son club, Bertrand. Hein.
Ça, c'est superbe. Ça, c'est superbe.
Elle croit en son club.
Ouais.
Thomas?
Ouais, pareil, c'est vrai que elle y croit dur comme fer. Maintenant, à savoir si elle a les.
Ouais.
Bon, on verra.
Voilà. Et Étienne?
Oui, non, pareil. C'est beau de voir quand même un attachement à un club comme ça.
Très bien. Allez, on va marquer peut-être une troisième pause musicale. Non, on n'est pas près du côté. Bon, on va finir avec le foot. Alors, cette semaine, il y a eu un bel exploit quand même avec Lyon. Messieurs, c'est fabuleux quand même. C'est le match référence qu'on attendait peut-être depuis très longtemps.
Oui, ils sont gentiment montés en pression depuis un certain temps déjà.
Oui, enfin, jamais ils étaient aussi mal partis. Quand
même. Oui, ils étaient très mal partis. Mais bon, on a senti qu'en championnat, ils reprenaient leur repère et que petit à petit, ils étaient de plus en plus difficiles à bouger. Mm-hmm. Je crois qu'ils ont fait ce qu'il fallait. C'est un bel exploit à Glasgow.
Oui, et Benzema, énorme
joueur en devenir. Et puis Lyon travaille dans la continuité depuis longtemps. Mm-hmm. Donc ils ont les résultats qui vont avec le fonctionnement qu'ils ont.
Mais par contre, c'est vrai que le problème, ça va être de passer ce fatidique stade des quarts de finale pour eux. Hein, parce que c'est vrai que, est-ce que le championnat n'est pas trop facile et que est-ce que c'est pas justement le problème de cette équipe de Lyon qui, peut-être, dans la dernière ligne droite, a peut-être pas assez de concurrence en championnat pour se transcender dans une Coupe d'Europe, quoi.
Bon, on les attend depuis 2-3 ans loin en compétition. Là, on les attend moins. Ben, c'est peut-être leur chance, justement. Moi, je suis assez confiant, ils ont vraiment une belle équipe.
Ça va finir un jour par passer?
Oui, je pense. Oui.
Et puis, par passer ce stade des quarts de finale,
ouais,
ça va
oui,
finir
ils en
un
sont,
jour
ils en sont tout à fait capables.
Ouais.
Tout à fait capables.
Thomas?
Ouais, je suis également d'accord. C'est vrai que cette année, en plus, avec la montée en puissance de Benzema, qui est vraiment extraordinaire, surtout pour à 19 ans, quoi. C'est incroyable tout ce qu'il arrive à faire, que ce soit en championnat, en Champions League. C'est vraiment phénoménal. Donc, c'est vrai que. Puis on sent qu'à tous les niveaux, ça fonctionne, quoi. La machine ne se grippe pas. Donc, c'est vrai que c'est impressionnant.
Et puis en plus, Coupe et Picris qui vont revenir. Hein,
donc, également, c'est vrai que c'est des gros renforts, même si Vercoutre assure vraiment bien l'intérim.
Oui.
Enfin, personnellement,
c'est parfois des belles boulettes aussi. Hein.
Ouais, mais rien qu'à voir le match d'hier, il a quand même sorti, il a fait des belles parades. Donc,
Il est capable du meilleur comme du pire, Vercroot. Hein. Il est capable d'arrêt parade, mais lui aussi, un peu comme Landreau. Hein, en déplaise à Juliette, il en faut aussi quelques bonnes, Vercroot de pain. Par moi. Équipe de France, messieurs, hein, parce que c'est la fin de l'année, donc on arrive dans l'heure des bilans de conclusion. Il va y avoir un groupe de la mort, mais l'équipe de France a les moyens de sortir ce groupe de la mort.
Oui, et puis bon, les qualifications et le tournoi, ce n'est pas la même chose. On sait que ça va être dur, il y a des grosses équipes. Le championnat d'Europe est même peut-être plus dur que la Coupe du Monde, on le sait. Bon, y a aussi une belle équipe de France, faut pas l'oublier, qui est capable de, du meilleur comme du pire. Bon, moi je suis assez confiant.
Oui, ils vont sortir avec l'Italie de ce groupe. Et puis
voilà, après, on leur souhaite au moins. Hein, attention quand même.
Etienne ?
Oui, non, moi je suis assez optimiste en voyant surtout voilà, Ben Arfa et Benzema qui vont justement en 2010 pour la Coupe du Monde, peut-être si tout se passe bien, faire des belles choses pour l'équipe de France et pour Lyon s'ils y restent.
Voilà, on a parlé de la grande soirée de Lyon, on va pas parler de l'humiliation de Marseille.
Oui, Marseille. Hein,
je ne vais pas vous mettre le couteau dans la plaie, vous l'avez dit.
Non, je ne suis pas pro Marseille.
Il y avait un monde d'écart, quoi. Voire
oui,
même
oui.
Deux.
Enfin, moi, j'étais très inquiet pour eux avant le match de Liverpool. Liverpool, c'est pareil, c'est une grande équipe qui se retrouve toujours dans les moments importants. Mm-hmm. Marseille ne dégage pas une impression de solidité. Il y a trop d'agitation autour de ce club. Ouais.
Ça fait comme Paris. Je crois que Paris-Marseille, c'est un peu le même combat. Hein. C'est malheureusement le problème d'être des clubs comme ça, très, très grands médiatiquement, très exposés.
Voilà, je crois que Lyon a su se dégager de ça et on ferait bien de s'inspirer un peu de leur démarche dans d'autres clubs.
Très bien, messieurs, merci en tout cas d'être venu nous parler donc de foot hein, et puis aussi de cette opération donc Anguichien et puis de la 4L Trophy hein, et puis on va vous donner rendez-vous la semaine prochaine. Alors la semaine prochaine, justement, comme c'est la dernière émission de 2007 en live hein, eh bien ça sera la grande émission de rétro, 9h-11h donc dans Tribune Sport. On reviendra à travers plusieurs témoins qui font l'actualité à longueur d'année dans nos studios. Eh bien on reviendra sur tous les faits marquants de cette année 2007. Ensuite, on vous offrira deux émissions de best-of. Hein. On restera avec vous quand même pendant les fêtes d'année, les fêtes de fin d'année. Et ensuite, donc, la reprise de nos invités en chair en os dès le 13 janvier avec une émission prévue à Fort-de-France pour le 27, spécial sport antillais et spécial foot antillais. Voilà, merci à toutes et à tous de nous avoir été fidèles ce matin. Et puis, on vous laisse avec Lionel à qui on va rendre l'heure qu'on lui avait prise la semaine dernière. Allez, bon dimanche et bonne semaine.
Bon dimanche, RVE, il est 11h.